Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.
Amis sportives et sportifs, bienvenue, c'est l'heure du débrief avec Radio VFM et Foot Normand, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au Stade Malherbe de Caen, au Havre Athletic Club, à QRM et plus généralement au foot partout en Normandie. Mon compagnon indéboulonnable de ce débrief, c'est Mathieu Billot de Foot Normand qui est avec nous une nouvelle fois ce soir. Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
On va revenir dans un instant évidemment sur la défaite du Stade Malherbe à Sochaux avec notre invité dans cette première partie du débrief, c'est le chef des sports de la rédaction West France à Caen, Guillaume Lenné. Salut Guillaume.
Salut à tout le monde.
Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est un nouveau numéro du débrief. Cascade de blessés, décision d'arbitrage défavorable, une avance de 2 buts dilapidée dans les arrêts de jeu à QRM. On pensait que le Stade Malherbe avait tout connu depuis le début de la saison, mais en fait, on était très loin du compte. Samedi, à l'occasion du déplacement à Sochaux, le club canet a tout simplement vécu un véritable cauchemar, il n'y a pas d'autre mot. Avant que Guillaume nous raconte le film du voyage des Canets, on rappelle juste que pour ce match, Stéphane Moulin était privé de nombreux éléments. Brahim Traoré, Joanne Le Penant, touché par le Covid dans la semaine. Alexandre Mendy et Djibril Diani, la dernière recrue, tous les deux suspendus. Ali Abdi à la Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie. Benjamin Janot qui a été victime d'une rechute au mollet, Johan Cour et Kélian Nsona qui eux sont en phase de reprise, on n'oublie pas non plus Mehdi Chaïri dont la saison est évidemment terminée. Alors Guillaume, c'est sans tous ces joueurs que le Stade Malherbe a pris l'avion au départ de Carpiquet. Nous étions samedi matin sur les coups de 9h et c'est là tout simplement que les ennuis canés ont commencé.
Bah oui, effectivement, ça a été une odyssée quand même très particulière pour les Canets. Direction aéroport donc à Carpiquet, ensuite direction Colmar, l'aéroport le plus proche de Sochaux hein, pour traditionnellement, c'était 1 heure de vol, donc impossible de se poser à Colmar à cause du brouillard. Avion dérouté vers l'aéroport international de Balmulhouse, où là normalement ça aurait été possible de pouvoir se poser, sauf que le pilote a tenté et que les conditions météo ne le permettaient pas non plus, je pense pour le type d'avion que c'était. Donc branle-bas de combat pour trouver un aéroport disponible où là il n'y avait pas de risque pour atterrir. La délégation canaise a donc à trancher pour Stuttgart. Hein. A priori c'était la seule possibilité à ce moment-là. Sauf que Stuttgart c'est à 300 km du stade Bonal. Il a fallu en plus une fois qu'il était sur place gérer les formalités d'accueil par les autorités allemandes, puisque c'est évidemment que c'est pas un vol prévu. Bloquer 1 heure sur le tarmac. Ensuite il fallait affréter un bus par une compagnie allemande sur place. Ça a mis du temps forcément puisque c'était pas prévu. Les joueurs ont poireauté entre guillemets plus d'une heure, presque 2 heures à l'aéroport. L'aéroport leur a gracieusement offert un petit encas pour qu'ils se restaurent un peu. Et puis ensuite direction, ils ont pu partir vers 15h30, direction Montbéliard, donc qui était à presque 4 heures de route de Stuttgart. Donc ils sont arrivés exactement à 19h15, c'est-à-dire 45 minutes avant le coup d'envoi de Sochaux-Caen.
Scénario assez incroyable, Mathieu.
Ouais, un coup d'envoi qui avait été déjà repoussé d'une heure, hein, parce que les matchs de Ligue 2 ont lieu généralement à 19h le samedi soir, et donc la Ligue, compte tenu des péripéties canaises, avait donc décalé déjà le coup d'envoi, heureusement, parce que sinon, ça, déjà pour 20h, c'était juste, alors pour 19h, impossible.
Je vous coupe juste pour l'anecdote aussi, parce que je ne l'ai pas raconté. J'en fais état un peu ce week-end dans le journal, mais bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais sur la route donc entre Stuttgart et Montbéliard, embouteillage à Karlsruhe, là ils ont cru vraiment à la catastrophe parce que c'était très compliqué. Heureusement, par chance entre guillemets, ça s'est un peu débloqué, donc ils ont été bloqués qu'une demi-heure alors que ça aurait été plus long. Et ensuite à une barre de péage, figurez-vous qu'à une barre de péage, le bus n'a pas pu passer. Il y a eu un problème avec une barre de péage qui ne s'ouvrait pas. Et il a fallu que les autorités leur ouvrent une voie extérieure suffisamment grande pour le bus, pour que le bus passe sur l'autoroute. Voilà.
C'est complètement surréaliste. On se croirait effectivement dans un scénario digne d'un film. Évidemment, on a oublié, hein, Mathieu, le repas diététique du midi. Évidemment, on a oublié la sieste. Enfin, on a oublié tout simplement tous les ingrédients de la préparation classique d'un match.
Ouais, tout à fait. Et puis, je conseille à tous ceux qui. Je conseille à tout le monde de lire l'article de Guillaume qui est paru dans l'édition de ce lundi dans West France, où il fait forcément une relation entre la préparation d'un match et la performance. Hein, du soir, forcément, si les joueurs s'entraînent, s'ils partent le matin d'un match, s'ils mangent tous ensemble normalement à une heure fixe, s'il y a une balade, s'il y a une sieste, s'il y a une causerie, tout ça normalement c'est censé forcément avoir un rôle, hein, sur la performance le soir, sinon ils se donneraient tous rendez-vous à une heure du coup d'envoi et toutes les semaines, et puis ils mettraient les shorts et voilà, sinon, donc voilà, donc il faut pas croire que tous ces événements là n'ont pas eu une conséquence physique et aussi peut-être psychologique sur le déroulé du match. Bon, pourtant le match il était pas si mal parti que ça, puisque le Stade Malherbe menait 2-0 à la pause. Bon, avec un petit brin quand même de réussite, on va pas le cacher, parce que le pénalty il est quand même un petit peu généreux, on va dire. Le pénalty qui a été accordé sur une faute sur Da Costa, qui avait signé le premier but. Mais c'est vrai qu'en seconde période, là, c'est vraiment très très mal goupillé. Donc on rappelle déjà que Adolphe Teke, qui faisait son premier match avec Malherbe, s'est blessé au bout de 4 minutes.
Non, mais tout ça est effectivement surréaliste. C'est-à-dire qu'on s'attend à un début de match cauchemardesque. D'un point de vue du score, ça se passe pas comme ça. En revanche, la nouvelle recrue qui est alignée sort dès les premières minutes sur blessure. C'est un scénario qui était quand même complètement imprévisible.
Ouais, et donc en seconde période, donc Sochaux a très rapidement réduit le score sur un mauvais alignement de la défense cannaise, et notamment Duel Armougom, qui retrouvait le 11 de départ, compte tenu de l'absence d'Ali Abdi. Nuno Da Costa a pris un deuxième jaune quelques minutes plus tard, donc expulsion. Sochaux égalise peu de temps après, et puis le clou du spectacle, c'est forcément ce troisième but dans les arrêts de jeu, synonyme de défaite. Du stade, elle a ressemblé à quoi cette seconde période, Guillaume ?
Bah moi je pense que justement, enfin Mathieu, vous parliez des liens de cause à effet entre la préparation, on va dire le trajet, et puis le match. C'est là où on l'a vu, c'est en deuxième mi-temps en fait, parce qu'il y a eu un double effet qui explique la deuxième mi-temps. Clairement pour moi, les Canets se sont écroulés sur le plan physique en deuxième mi-temps, et ça a été évidemment accentué par l'expulsion de Da Costa à la 60e minute. C'est-à-dire quand même très vite, hein, en deuxième mi-temps, au bout d'un quart d'heure. Dans la dernière demi-heure, les Canets n'avaient plus de jus. Et en plus, ils jouaient à 10. Contre une équipe sochalienne qui était en furie, qui a effectivement une réaction. Ils ont été très bons en deuxième mi-temps en Sochaux. Hein. Une très grosse pression, beaucoup d'intensité, beaucoup de caractère. Voilà, et donc là, les Canets ont totalement craqué. Alors, ils ont craqué d'abord sur le plan athlétique. Ils ont craqué parce qu'ils étaient à 10, et ils ont craqué aussi sur le plan mental, parce que je pense qu'évidemment, le gros problème de cette équipe, et c'est pas nouveau, c'est la capacité mentale quand même à faire face à des événements contraires. À partir du moment où Sochaux a réduit le score très très vite, dans les têtes a forcément circulé le scénario de Quevilly. Et puis effectivement, avec l'expulsion, moi je pense qu'ils ont aussi lâché en partie sur le plan mental. Et que le sentiment un peu d'inéluctable dont parlait Stéphane Moulin en conférence de presse, c'est là qu'il est arrivé un petit peu. Ça s'est insinué dans les têtes, également des joueurs, à mon avis. Le niveau physique n'aidant pas, voilà. Et tout ça fait que on a le sentiment que le deuxième but, l'égalisation, puis ensuite le troisième but dans les arrêts de jeu, c'était presque écrit à ce moment-là, vu le scénario du match.
Ouais, Guillaume, encore une fois, vous le soulignez dans l'article, hein, qui est paru ce matin dans les colonnes de West France, c'est pas la première fois que le Stade Malherbe perd des points après avoir mené. Vous le disiez, c'est déjà 14 points de lâchés, dont la moitié sur les 4 dernières journées, parce que le Stade Malherbe a mené à Auxerre, a mené à QRM, donc il menait aussi contre Sochaux. Là, c'est vrai que, fi de toutes les péripéties, de tout ce qui peut se passer contre le Stade Malherbe, blessures, suspensions, Covid... Là, il y a une faille clairement identifiée et qu'il est très difficile à corriger.
Ah bah oui, c'est vrai qu'effectivement, cette stat, elle est assez parlante. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'aucune équipe de foot ne peut remporter tous ses matchs quand elle mène au score, ça n'existe pas. Mais bon, imaginez si simplement Malherbe, sur ces 7 matchs donc, où ils ouvrent le score et où ils perdent des points, si seulement sur ces 7 matchs, ils en remportent 3, ce qui était largement dans leur corde, évidemment, hein, quand on refait le film de ces 7 matchs, des 7 matchs concernés, évidemment, c'est plus du tout la même mayonnaise. Donc là, oui, clairement, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci qui s'est développé là sur le mois de décembre au niveau du fait que l'équipe au moins a réussi à ouvrir le score et a réussi à réagir. C'était mieux, c'est quand même mieux. Enfin, maintenant, l'équipe arrive à prendre les devants. Mais le problème, c'est que là, elle est en incapacité mentale et en termes de maîtrise collective globale à pouvoir assurer ça, à pouvoir avoir suffisamment de sécurité défensive et de sécurité collective pour tenir ses avantages. Et là, c'est un vrai problème qui la fragilise terriblement et qui fait d'elle tout simplement une équipe vouée à lutter pour se maintenir en Ligue 2.
Ouais, bon, Guillaume, je vous précise effectivement qu'une équipe qui gagne tous ses matchs en menant au score, ça n'existe pas. Je suis bien placé pour le savoir. Au-delà de ça, Guillaume, cette défaite, elle a provoqué le courroux des supporters rouges et bleus sur les réseaux sociaux. Il y a un mélange de sentiments de honte, de ras-le-bol même, qui anime un petit peu les supporters. Le coach avait été plutôt épargné hein, pour l'instant par ses critiques depuis le début de saison. Et cette fois-ci, il n'a pas échappé à la colère des supporters. Alors la faute à ses déclarations d'après-match, lui qui est pourtant loué plutôt pour la justesse hein, de ses analyses depuis le début de la saison, notamment sur ses analyses d'après-match. Ces propos, vous les avez relayés, Guillaume, dans Ouest France. Il n'y a qu'à nous que ça arrive, la coupe est pleine, il n'y avait déjà plus beaucoup de place pour la remplir, je pensais avoir tout vu, dit Stéphane Moulin. On a l'impression que tout ce qui nous arrive est inéluctable, là c'est le summum, poursuit-il. J'aurais préféré perdre 3-0, on a zéro réussite, zéro, rien pour nous, c'est un truc de fou, dit Stéphane Moulin dans vos colonnes. Guillaume, est-ce que vous comprenez les réactions des supporters, notamment vis-à-vis du coach ?
On peut comprendre la réaction de Stéphane Moulin, mais il fait référence notamment aux à côté, notamment là, sur ce match-là, effectivement. Alors après, il déporte sur le match. Là, oui, c'est une réaction à chaud, effectivement, qu'on peut lui reprocher de vouloir un petit peu noyer le poisson en parlant uniquement de réussite. C'est sûr que c'est pas uniquement la réussite sur ce match-là, puisqu'il peut aussi y avoir un pénalty pour Sochaux qui n'est pas sifflé juste avant le troisième but. Oui, il n'y a pas que de la réussite. Après, effectivement, à chaud, moi je pense que les Canet et lui ont l'impression que tout leur tombe sur la tête en même temps. Il faut aussi dire que l'expulsion de Da Costa, elle est quand même assez sévère. Hein. Là pour le coup ils sont pas épargnés non plus les Canet. Ils doivent faire référence également aussi à la blessure de Teke qui modifie tous ses plans, qui chamboule tous ses plans de départ, puisqu'il faut faire rentrer Gonçalves au milieu de terrain, il faut faire reculer Onyangé derrière, et ni l'un ni l'autre ne sont au niveau, à la hauteur en termes de performance. Donc voilà, je pense que c'est tous ces éléments là en fait qui fait qu'il a l'impression de plus rien maîtriser, que la pelote de laine se débine. Et que en gros, ils ont rien pour eux. Mais évidemment que l'analyse du match en soi, elle peut pas simplement être liée à la réussite. C'est un ensemble de choses. Mais bon, il faut aussi être un peu réaliste. Je pense les supporters sont pas contents. Oui, mais là, il faut faire l'analyse un petit peu avec sang-froid de ce match-là. C'était un match entre une équipe qui joue la montée en Ligue 1. Et une équipe qui joue le maintien en Ligue 2 à 10 contre 11 dans la dernière demi-heure. Avec un niveau physique évidemment déplorable pour l'équipe de Caen, lié aussi au contexte de ce match-là avec le trajet. Tout ça, on peut pas l'oublier, ça rentre dans l'analyse. Donc on peut pas analyser ce match-là uniquement par le prisme du résultat brut et se dire que c'est scandaleux que Caen ait perdu ce match-là. Il y a une forme de logique à tout ce qui est arrivé.
Ouais, Mathieu, effectivement, Guillaume y faisait référence, mais les conséquences de cette défaite, elles sont aussi comptables parce que inéluctablement, ça se traduit au classement.
Oui, parce qu'aujourd'hui, donc le Stade Malherbe est 15e avec un seul point d'avance sur la zone rouge, sur la 18e place. Alors forcément, le classement il commence à devenir un petit peu illisible parce qu'il y a de nombreux matchs reportés pour cause de Covid, à commencer par le Stade Malherbe qui a un match de retard contre Niort qui a été fixé au 28 janvier, vendredi 28 janvier. Toujours est-il que on peut considérer aujourd'hui que le Stade Malherbe pour la deuxième saison consécutive joue le maintien. Est-ce que Guillaume, vous partagez ce point de vue ?
Bah oui, c'est ce que j'ai dit juste précédemment. Oui, le Stade Malherbe joue le maintien en Ligue 2. Le Stade Malherbe est à sa place aujourd'hui, 15e. Alors certes, il y a beaucoup de matchs en retard, il faut faire attention au classement. Mais voilà, quand une équipe n'est pas capable de tenir des résultats, quand une équipe montre autant de faiblesse mentale dans la gestion de ses matchs et un manque de maîtrise collective de cet ordre-là, même s'il y a des bonnes choses, il y a du mieux, moi je trouve malgré tout depuis le mois de décembre dans la production, il y a un Da Costa qui revenait bien, mais comme par hasard il se fait sortir, il est expulsé, il sera absent contre Ajaccio. Voilà, il y a, ça reste une équipe qui est extrêmement fragile, qui n'est pas en mesure de maîtriser tous ses matchs, de la première à la 90e minute. Il y a assez peu de raisons pour que ça change dans l'immédiat, même si voilà, tout est possible en foot. Hein. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Il faut l'accepter. Il y a des failles dans cette équipe, des limites dans toutes les lignes, au milieu de terrain, quand il y a quelques absents. En attaque, quand il y a quelques absents aussi. Et en défense, pareil. Voilà, il faut malheureusement prendre le parti que Caen aujourd'hui est une équipe de bas de tableau de Ligue 2.
Guillaume, cette première partie du débrief de Radio VFM et Foot Normand touche à sa fin. On va terminer avec un mot de Mercato. La semaine dernière, Lou Hervieux et Timo Stavitski ont résilié leur contrat. Mais il faut bien dire que c'est surtout l'avenir de Kélian Nsonna qui anime aujourd'hui toutes les discussions.
Oui, oui, ça fait partie des enjeux de ces derniers jours du Mercato. La question étant de savoir s'il va partir là, d'ici 15 jours, donc en Allemagne probablement, hein, puisque des négociations sont toujours en cours là avec avec plusieurs clubs allemands, dont le Hertha Berlin particulièrement, avec lequel il y aurait déjà un accord entre Nsonna et le Hertha. Donc voilà, le joueur aujourd'hui est en instance de départ. Le club tente de trouver une solution pour le faire sortir, on va dire, sans perdre totalement, enfin sans qu'il parte pour 0€ au mois de juin. Voilà, ça reste des négociations en cours. C'est un des enjeux. Après, peut-être qu'il peut y avoir, selon un ou deux autres départs, et peut-être selon le départ aussi de Nsonna, une arrivée un peu surprise, peut-être sur le plan offensif. Voilà, le mercato de Caen, a priori, dans le sens des arrivées, était censé être terminé. Il n'est pas acquis non plus à 100% que ce soit vraiment le cas. Il est possible que ça bouge encore d'ici le 31 janvier.
On rappelle juste, hein, pour Kélian Nsonna, que c'est un garçon qui est en fin de contrat au 30 juin. Donc libre de s'engager pour le club qui le souhaite depuis le 1er janvier, dans l'optique de la saison prochaine. Donc effectivement, certaines infos donnent comme info qu'il serait déjà engagé pour le Hertha Berlin, donc partirait libre, et donc pour zéro pour Malherbe. Et l'objectif de la direction du club, c'est essayer de le transférer contre une petite somme d'ici le 30 janvier pour ce mercato d'hiver, pour effectivement qu'il soit pas totalement fanny, quoi. Donc en fonction de ce départ-là, c'est vrai qu'avec la suspension de Da Costa, bon, peut-être qu'il va prendre qu'un match, hein, mais bon, en attaque, ça paraît un peu léger quand même au Stade Malherbe, en quantité en tout cas. Il y a Mendy, il y a Da Costa, avec la blessure de Shaïri jusqu'à la fin de la saison, même si Jeannot et Cour sont censés revenir à un moment, ça paraît un petit peu juste quand même, Guillaume.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que si Nsonna fait ses valises, il y aura un renfort offensif. Pour moi, ça paraît évident. Après, encore une fois, hein, pour que Caen recrute, il faut des départs. Ça, c'est une condition sine qua non. Le club n'a pas les moyens aujourd'hui de rajouter encore des joueurs à un effectif sur le plan quantitatif qui est toujours trop important. Donc voilà, on en est là. Mais oui, ça paraît effectivement un peu juste, même si je pense que Da Costa ne prendra qu'un seul match. Donc il devrait revenir pour la réception de Niort le 28.
Effectivement, et on allait conclure par ça, par les prochains matchs qui attendent les Canets. Il y a deux matchs consécutifs à domicile, hein, et ça s'explique, Guillaume l'a dit, par la reprogrammation de ce match entre Caen et Niort. Alors il y aura tout d'abord lundi prochain, Mathieu, on le rappelle, une belle affiche à Dornano, 20h45 hein, évidemment, puisque c'est un match décalé. Là c'est Ajaccio, c'est l'actuel 3e du championnat qui sera à Dornano, et on enchaînera le vendredi à 19h par la réception donc des Chamois Niortais.
Oui, c'est exactement ça. Donc là c'est Ajaccio qui est 3e, mais qui pourrait être virtuellement leader, car c'est une équipe qui possède deux matchs de retard compte tenu du Covid.
Merci beaucoup Guillaume Lenné, chef d'espoir à la rédaction Ouest France à Caen, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On retrouve évidemment toute l'actualité des Rouges et Bleus tous les jours, hein, dans le journal Ouest France, sur westfrance.fr ainsi que sur les réseaux sociaux associés. Merci infiniment Guillaume et à très vite pour parler des Rouges et Bleus.
Merci à vous, bonne journée.
C'était la partie consacrée au Stade Malherbe de ce débrief Radio VFM et Foot Normand. Le débrief, c'est aussi le HAF, QRM, le foot en région. De tout ça, on en parle évidemment dans les futures parties.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.